Je passe au conférencier de ce soir, Yves Michaud. Yves Michaud est philosophe. Il est né en 1944 à Lyon. Il est ancien élève de l'École normale supérieure. Il est agrégé de philosophie, doctoresse lettres. Il est professeur de philosophie à l'Université Paris 1. Il est le concepteur de l'Université de tous les savoirs et des forums de la démocratie et du savoir. Il a fait des études de philosophie et de sciences à la Sorbonne, à l'ENS et à la Faculté des sciences d'Orsay. Il a occupé différents postes de professeur de philosophie, notamment à l'Université de Montpellier 3 et à l'Université de Rouen. En 1985, il est devenu professeur de philosophie à l'Université de Paris 1. Puis entre 1989 et 1996, il est devenu directeur de l'École nationale des beaux-arts et depuis 1996, de nouveau professeur de philosophie à l'Université de Paris 1. Il est spécialiste de la philosophie politique et de la violence en particulier. Il est également critique et théoricien de l'art. Pour ce qui est des publications, Yves Michaud, je ne vais pas toutes les citer, mais j'en citerai un certain nombre, a publié « Violence et politique », qui a été publié chez Gallimard, collection Les Essais, en 1978. Il a publié « Hume et la fin de la philosophie » aux Presses universitaires de France, collection Philosophie en 1983 et réédition en collection Quadridge en 1999. Il a publié « John Locke, Bordas, 1986, réédition aux Presses universitaires de France, collection Quadridge en 1998. Il a publié « La violence » en collection « Que sais-je » aux Presses universitaires de France en 1986 avec une nouvelle édition en 1998. Il a publié « L'artiste et les commissaires », quatre essais non pas sur l'art contemporain, mais sur ceux qui s'en occupent, chez Jacqueline Chambon, collection Rayon Art, en 1989. Il a publié « La crise de l'art contemporain, utopie, démocratie et comédie » aux Presses universitaires de France, collection Intervention philosophique, en 1997. L'art contemporain depuis 1945, pardon, à la documentation photographique et à la documentation française en 1998. Critères esthétiques et jugement de goût, chez Jacqueline Chambon, collection Rayon Art en 1999. Et ses deux derniers ouvrages, tout d'abord Changement dans la violence, essai sur la bienveillance universelle et la peur, chez Odile Jacob en 2002. Et Humain, inhumain, trop humain, aux éditions Climat en 2002. Yves Michaud, comme vous le savez mieux que quiconque, je vous cède la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi survivra un débat avec le public d'une vingtaine de minutes. Je vous remercie.
Bon, Gabriel, merci beaucoup de cette présentation. Je vais essayer de m'en tenir à 50 minutes. Donc, du coup, je n'aurai pas d'introduction. Je n'ai pas d'image non plus à vous montrer. En guise d'introduction, cette petite chose que j'ai découpée sur une boîte d'œufs il y a 2-3 mois, après avoir fait mes courses, a dit quelque chose sur notre rapport à la diversité, à la traçabilité et aux normes. J'en lis, nos œufs matines ont une identité, et les lettres figurant sur chaque œuf matine correspondent au poulailler d'origine de celui-ci. Les œufs matines sont collectés dans des élevages sélectionnés par nos soins, etc., etc. Traçabilité, mais donc c'est pas l'œuf de chaque poule quand même, pas encore, mais l'œuf de chaque poulailler, hein, identité et je suppose variété, mais en même temps traçabilité et normes. Ensuite, suivent tous les conseils nutritionnels, la teneur moyenne pour 100 grammes en protéines, glucides, lipides, etc. Tout est normalisé. Hein, diversité, variété, traçabilité et normalisation. Je pense que ce sera un peu à l'arrière-plan de ce que l'on va voir aujourd'hui. Le plan de ce que je vais vous dire sera assez simple. Je commencerai par deux remarques, je dirais, pour poser dans quelles conditions nous réfléchissons. Ensuite, quelques considérations sur la diversité. Et puis, j'en viendrai, aux trois modes de gestion de la diversité dont parle le titre de mon intervention, conflit, ritualisation, droit. Je commencerai plutôt par les règles et le droit. Puis, je parlerai du conflit et enfin de la ritualisation. Donc l'ordre sera assez simple, c'est pour ça que je me permets de ne pas vous le projeter. Donc, je commence tout de suite par deux remarques, l'une sur nos comportements naturels face à la diversité et l'autre sur nos comportements, je dirais, au sein des sociétés où nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire ici et maintenant, et nous, Européens, Français, Européens, du début du XXIe siècle. Première remarque concernant presque un invariant humain, c'est notre ambivalence vis-à-vis de l'ambivalence de notre relation à la diversité. C'est-à-dire que la diversité stimule la curiosité, elle attire, elle nous captive, elle fascine. D'où il s'ensuit le goût humain pour le pittoresque, pour le surprenant, l'exotique, le varié, tout ce qui sort de la routine et tout ce qui sort de l'habituel. Vous savez que les collections qui ont anticipé les musées, avant que les musées soient bien organisés et bien classés, ces collections ont été d'abord des cabinets de curiosité, c'est-à-dire des rassemblements de ce qu'on appelle des curios, des choses étranges, bizarres et curieuses qui déclenchent la curiosité. Demandez-vous aussi seulement si vous seriez venu suivre aussi nombreux une série de conférences qui seraient appelées non pas la diversité de la vie, mais l'uniformité de la vie. Hein, même si le contenu avait été le même, parce que finalement, je veux dire, on a parlé aussi beaucoup de l'uniformité de la vie, en tout cas dans les lois qu'elle suit. Et en même temps, la diversité nous inquiète. Hein, elle fait peur. En tout cas, elle est source d'alerte, d'inquiétude. Elle dérange nos procédures normales de perception et de catégorisation. Parfois, très vite aussi, elle déclenche l'agression. Après la surprise et après l'alerte, vient l'agression pour la réduire. On en parlera plus tard. Pratiquement dans toutes les langues et toutes les pensées, je ne les connais pas toutes, mais dans toutes celles que j'ai pu fréquenter, il y a place pour cette ambivalence. J'ai souvent été frappé qu'en grec ancien, ce qui est multiple est vu comme à la fois attirant, séduisant et redoutable. Et il y a un mot grec qui a beaucoup à voir avec l'art, avec la ruse, avec la surprise, avec la fascination et en même temps avec le danger. C'est le mot poikilos, qui veut dire à la fois ce qui est varié, ce qui est bariolé, ce qui est chatoyant, et en même temps ce qui est trompeur. Hein. L'inquiétante étrangeté freudienne a quelque chose de cette ambivalence de la diversité. Et le multiple divers ont une double connotation, une connotation de richesse et aussi une connotation de tromperie et d'égarement. Ça, c'est ma première remarque très générale, disons, sur une sorte de constante anthropologique d'attitude vis-à-vis de la diversité. Une seconde remarque, cette fois-ci, pas sur une constante, mais sur notre contexte, c'est-à-dire le type de société dans lequel nous réfléchissons aujourd'hui et la manière dont cette société voit la diversité. Bon, nous habitons, on peut le regretter, on peut en être gêné, on peut aussi en être fier. Nous habitons des sociétés qui sont développées et qui sont techniques, hein, qu'on fait mes œufs. Hein. Et pourtant, justement, nous sommes des amoureux de la différence, de la diversité, de la variété. J'ai fait récemment une expérience tout à fait intéressante, c'est-à-dire que il m'arrive d'essayer de faire de la philosophie avec de très jeunes adolescents. Et j'abordais avec un groupe de tout jeunes, plus que des enfants, des adolescents, mais des gamins quasiment, la question de la diversité des langues. C'était le sujet de nos discussions. Et j'ai été très surpris de les entendre d'entrée de jeu, hein, avant même que la discussion ait commencé, les entendre faire d'entrée de jeu l'éloge de la diversité. Et je leur ai tout de suite demandé pourquoi. Il n'y avait pas d'autre raison que l'amour de la diversité ou un préjugé favorable pour la diversité. Et il me venait à l'esprit que, je leur ai dit d'ailleurs, qu'à la fin du 19e siècle, au tournant du 20e siècle, ils auraient probablement tous critiqué la diversité des langues. Parce qu'à l'époque, je veux dire, on critiquait la diversité des langues. La diversité babélienne des langues était vue comme une source de conflit et une source de guerre. Et comme vous savez, on cherchait alors à créer des langues internationales. C'est la grande époque des langues artificielles internationales, comme le volapük de 1884 ou l'espéranto, qui en 1887 a eu beaucoup plus de succès, comme vous savez. Soit dit en passant, une des raisons de l'insuccès du volapük de 1884, c'est que son inventeur avait déposé un brevet pour garder les droits d'une langue universelle. Nous aimons la diversité, et tout ça, c'est très sympathique. C'est très sympathique, nous sommes ouverts à la diversité, ouverts à la différence, et nous avons un préjugé favorable envers elle. Mais je crois qu'il faut aussi reconnaître qu'il y a une face plus ambiguë à cet amour de la diversité, parce que l'amour de la diversité, aujourd'hui, c'est le principe de l'individualisme contemporain, c'est le principe aussi de la consommation individualiste. nous nous sentons tous uniques et nous voulons tous qu'on respecte nos différences. Et nous voulons des traitements personnalisés, des produits personnalisés, ce que le monde de la politique, le monde du commerce, le monde du marketing, le monde de la publicité a très bien compris avec notre complicité et notre consentement. Et nous vivons dans un monde où les produits, de tout ce qui nous est proposé, fait l'objet de ce qu'on appelle, dans un bon anglais qui est intéressant, customisation, individualisation, personnalisation. Et on a affaire à un paradoxe qui est quand même le paradoxe de la personnalisation de masse. Et quand je dis ça, je suis bien conscient que c'est une expression contradictoire. Or, le paradoxe aussi, c'est que cet amour de la différence et de l'individualisation s'exprime dans des sociétés qui sont par ailleurs prises dans des réseaux extrêmement serrés de normes, de normes, de normalisation, de contraintes et de règles. Hein ? Je veux dire, là encore, je reviens à mes œufs matines. Donc, nous vivons le paradoxe d'un monde de la normalisation, de la personnalisation à outrance et en même temps de la standardisation. Et je dirais que nous en accommodons plutôt bien. Hein, je veux dire que c'est avec notre complicité. Alors, j'ai fait ces deux remarques préliminaires parce qu'elles marquent inévitablement notre réflexion. Hein. Toute réflexion aussi universalisante, se voudrait-elle, est située. Hein. Et elle porte quelque chose du contexte dans lequel elle se déroule. Il ne faut pas oublier que nous sommes, et moi-même, je suis situé et je parle dans ce contexte. Contexte d'amour de la diversité, contexte de crainte de la diversité et contexte aussi de société individualiste et de personnalisation. Alors maintenant, quelques remarques sur la diversité elle-même et notamment sur la diversité humaine. J'ai quelques scrupules à le faire parce que d'abord, il y a eu toute cette série de conférences, mais j'en ai et on en a autrement mieux parlé que je ne saurais le faire. Mais j'en ai besoin en quelque sorte comme point d'appui et point de départ. Ce que nous avons vu au fil de cette série de conférences, c'est qu'il y a une formidable diversité de la vie, une formidable diversité des espèces et une formidable diversité de la vie aussi au fil du temps, hein, avec l'intervention, je dirais, in extremis dans les dernières minutes de cette histoire de l'homme. On peut même définir la vie, comme l'avait fait d'ailleurs au début de l'Université de tous les savoirs, le 1er janvier 2000, François Jacob, la vie comme un immense bricolage et un bricolage de la diversité. Donc cette diversité est inhérente au vivant, dont elle assure le renouvellement constant à travers des mutations, qui trouvent ou non le terrain pour réussir et pour survivre et pour, chercher ensuite à se reproduire. Bon, il en résulte une grande diversité d'espèces, et on a vu que ce concept d'espèce est aussi difficile à définir précisément. On arrive à le définir, mais le définir précisément, c'est une autre affaire. Ce concept est aussi difficile à définir précisément qu'il est nécessaire pour appréhender la différenciation de la vie et les relations entre ces manifestations. À l'intérieur des espèces, les variations et les différences individuelles prolifèrent aussi, mais le fait est que nous ne sommes pas très intéressés, nous humains, à voir ces différences individuelles en dehors du monde non humain. Les différences individuelles nous intéressent dans le monde humain, elles nous intéressent beaucoup moins au sein des espèces, sauf peut-être lorsque nous avons affaire à notre chat ou encore une fois aux poules de nos poulaillers. Alors dans la diversité du vivant maintenant, je n'en dirai pas plus parce qu'encore une fois des personnes infiniment plus compétentes sont venues parler ici, la diversité humaine a quelque chose de particulier. Parce qu'il semble se produire avec l'homme un changement important. Comme l'a dit Alain Prochiantz, nous n'évoluons plus par spéciation à la suite de mutations, avec apparition d'espèces nouvelles d'hominoïdes, comme pourraient l'être, comme le seront peut-être un de ces quatre matins, les androïdes de Blade Runner. Mais nous vivons par individuation au sein de l'espèce humaine. C'est-à-dire que la diversité des individus, et puis au-delà la diversité des groupes, paraît se substituer à l'évolution sous la forme radicale qu'elle a quand il s'agit d'évoluer ou disparaître. On a le sentiment, en tout cas, qu'au moins pour lui, hein, au moins pour l'homme, je ne parle pas pour le reste de la nature, au moins pour l'homme, l'évolution paraît s'immobiliser. Et elles paraissent immobilisées, je dirais, pour deux séries de raisons, à cause de deux sortes de mécanismes. D'abord parce que nous contrôlons progressivement de mieux en mieux notre environnement, grâce à la maîtrise technique, scientifique et aux moyens culturels d'appréhension du monde. Et là, je signale, sans m'attarder, mais pour ceux qui s'intéressent à la philosophie, que de nombreux philosophes, à partir du XXe siècle, se sont intéressés à ce contrôle humain du milieu. Je citerai Bergson, je citerai un philosophe qui est malheureusement trop oublié parce qu'il a eu une carrière multiple et s'est intéressé à tellement de choses que finalement, on l'identifie plus vraiment comme un philosophe en particulier, c'est George Friedman qui a commencé par être un philosophe de la technique avant de devenir un sociologue du travail et puis ensuite de devenir un sociologue de la culture et enfin un des inventeurs de la sémiologie. Donc ça a commencé avec Bergson, il y a Friedman, il y a eu en Allemagne des gens comme Arnold Gehlen, en France aussi un philosophe peu encore trop ignoré, comme Gilbert Simondon, qui est très obscur mais extrêmement intéressant, et puis bien sûr un philosophe qui a parlé à l'Université de tous les savoirs et qui est objet de beaucoup de controverses, Peter Sloterdijk. Les philosophes se sont intéressés à la manière dont l'homme contrôle progressivement son environnement par la technique, par la science et par les médias culturels. Bon, ça c'est un premier moyen en quelque sorte d'aménager le rapport à l'environnement, en quelque sorte de l'amortir. Sloterdijk parle de la production par les humains de bulles ou de serres à l'intérieur desquelles ils peuvent mener leurs activités. Et puis d'autre part, deuxième mode d'aménagement de ce rapport au milieu, les hommes stabilisent aussi leur propre évolution en contrôlant leur destin biologique par les traitements médicaux, en contrôlant aussi les populations, parce que Michel Foucault a remarquablement appelé, quand il a dégagé la notion, par des biopolitiques, hein, des biopolitiques qui gèrent les populations, qui gèrent leur santé, qui gèrent leur reproduction, qui gèrent les handicaps, qui gèrent les risques, qui gèrent la sécurité sociale, comme on dit si bien. Et puis aussi à travers des pratiques, disons, de contrôle des naissances et même des pratiques eugéniques, eugénistes, même si elles ne disent pas toujours leur nom, comme c'est le cas aujourd'hui. Cette prétention au contrôle va très loin et d'une certaine manière, les hommes, jusqu'à un certain point, maîtrisent leur population, leur santé. Une grande partie des progrès du XXe siècle, des progrès démographiques du XXe siècle, est venue de cette maîtrise des hommes sur leur propre vie, la maîtrise biopolitique de la vie. Alors, ce qui frappe dans la diversité humaine maintenant, la diversité humaine biologique, c'est qu'elle est à la fois considérable, on en a encore beaucoup parlé hier, et en même temps pas tellement considérable. Mais je ne vais pas m'exprimer sous le même angle que Jean-Pierre Changeux hier. Qu'est-ce que je veux dire en disant que cette diversité est considérable et en même temps pas tellement considérable? Je dirais que c'est bien le même pool génétique, ce sont même les mêmes fonctions physiologiques, mais on sait qu'avec les migrations, les déplacements, les invasions, avec les combinaisons du matériel de la reproduction, avec tous les aléas, les hasards des processus vitaux, eh bien, se manifeste une diversité individuelle extrême. Et tous les penseurs, aussi bien les savants que les penseurs philosophes, ont reconnu cette diversité humaine qui est à la fois génétique, épigénétique, et moi j'ajouterais un terme qui n'est pas très scientifique, mais situationnel. Il y a une diversité des corps, il y a une diversité des pathologies, une diversité des réactions aux agents pathogènes, une diversité des capacités corporelles et intellectuelles, des constitutions émotives et affectives. Et puis, sans oublier des choses qui pèsent énormément dans notre vie, c'est la diversité des âges, par laquelle nous passons tous, la diversité des idées, la diversité des histoires et des itinéraires individuels, la diversité des langages, toutes les diversités culturelles qui sont liées au groupe auquel nous nous trouvons, soit par la naissance, soit par le hasard des migrations, nous nous trouvons appartenir. Et ce que les penseurs ont tous remarqué aussi, c'est qu'au fond, ces diversités biologiques font moins de différence que les diversités culturelles. Alors, qu'est-ce que je veux dire quand j'avance qu'elles font moins de différence que les diversités culturelles? Bien sûr, elles font une différence individuelle considérable. Et une différence individuelle, je dirais, au plan existentiel. Nous savons tous que ça change quelque chose à la vie, si l'on est beau ou laid, robuste ou souffreteux, affligé d'une maladie héréditaire ou affligé héréditairement d'une santé resplendissante. Mais en gros, ça ne fait pas une si grande différence. Ça fait une différence existentielle, individuelle, dans le drame des individus, dans les vies, dans les biographies individuelles. Mais ça ne fait pas une si grande différence au niveau des grands nombres. Et comme disait Thomas Hobbes au XVIIe siècle, il disait qu'en dépit de la diversité de leurs aptitudes, les hommes sont sensiblement égaux. Hein. Tel qui est petit et moins fort sera probablement peut-être plus malin, etc., même si ce sont souvent des clichés. Mais disons que sensiblement, un homme représente, disait Hobbes, à peu près le même danger. Tous les hommes représentent les uns pour les autres à peu près les mêmes dangers parce qu'ils ont sensiblement les mêmes capacités. Et je veux dire, et pour ma part, je vois dans cette égalité, disons, sensible, j'y vois un des arguments les plus forts que je connaisse en faveur de l'égalité. Et j'avoue en tout cas que c'est un argument pour l'égalité qui me satisfait infiniment plus que les arguments charitables ou humanistes qui nous demandent de traiter tous les hommes comme des personnes. Hein. Comment est-ce que je reformule mon argument? Je dirais de la manière suivante, on ne voit pas au nom de quelle différence stable et reproductible, c'est-à-dire des différences qui ne seraient pas des différences dues au hasard des processus de la vie, on pourrait décider de traiter différemment certains individus. Autrement dit, quand je fais cette défense de l'égalité, je dis seulement qu'au lieu de donner des raisons de traiter également les êtres, je préfère qu'on demande quelles seraient les raisons de les traiter inégalement. Et j'ai constaté qu'en règle générale, mes collègues philosophes sont bien en mal de donner des raisons de traiter inégalement les êtres humains. Alors, toute cette diversité individuelle, elle doit être prise en charge. Elle doit être prise en charge par les sociétés, c'est-à-dire par nous, au sein des sociétés. D'abord parce que, tout simplement, nous avons à nous reproduire. Hein, donc, il y a une prise en charge de la reproduction. Nous prenons en charge nous-mêmes notre propre reproduction, plus ou moins consciemment. Mais les sociétés se chargent aussi de la prendre en charge pour nous. Ensuite, parce que les sociétés ont besoin de continuer à s'adapter au milieu et à l'environnement. Et donc, elles ont besoin d'inventer des mécanismes qui permettent cette adaptation. Elles ont besoin d'innover, elles ont besoin d'inventer. Et elles ont besoin de s'adapter aussi aux effets qu'elles-mêmes produisent. Donc il y a tout un aspect de bricolage et de mise en commun des diversités, de la diversité des capacités humaines, pour aboutir à cette sorte de synergie sociale d'adaptation. Et je dirais que la diversité humaine, comme beaucoup de philosophes et sociologues du XIXe siècle l'ont tout de suite reconnu, elle est éminemment utile pour la solidarité sociale et pour la division du travail. Il y a des hommes et des femmes, des forts et des faibles, des intelligents et des moins intelligents, il faut être correct, des colériques et des calmes, des manuels et des intellectuels. Je vous renvoie à Adam Smith, un des premiers à avoir bien thématisé tout cela. Ça ne fait certainement pas le meilleur des mondes possibles, mais en tout cas, ça permet le fonctionnement social, ou en tout cas, le fonctionnement social arrive à peu près bien s'en tirer compte tenu de la diversité dont il ne tire pas forcément avantage. Ce serait peut-être pratique que tout le monde soit pareil et qu'il n'y ait pas à gérer cette diversité. Mais il se peut aussi que cette diversité soit éminemment utile quand on arrive à la gérer. La gestion de cette diversité suppose aussi que soient préservées des adaptations. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas seulement des innovations et des inventions, mais qu'il y ait des transmissions, de la conservation, des répétitions et des régularités. Et je dirais que pour m'acheminer vers la fin de ces remarques sur la diversité, il y a une dialectique, je veux dire pour une fois le terme est indiqué, dialectique de l'innovation et de la transmission, je dirais de la diversité et de son contrôle. Je ne suis pas sûr qu'une société où il n'y aurait que des différences aurait beaucoup de cohérence et puisse durer longtemps. Elle pourrait probablement durer un certain temps, mais pas forcément très longtemps. Et en revanche, une société où ne régnerait que le même, que l'identique, serait évidemment, comme on sait, monolithique. Elle pourrait probablement aussi durer, mais à condition de n'avoir pas trop à modifier ses adaptations, c'est-à-dire à condition de ne pas trop agir, ni sur elle-même ni sur le milieu, et de ne pas non plus avoir affaire à un environnement trop variable lui aussi. Alors, face à cette diversité aussi bien génétique, biologique et cette immense diversité culturelle, qui sont autant d'occasions de coopération, mais aussi de division, eh bien, les hommes montent des stratégies, essayent de s'en sortir, essayent de gérer cette diversité. Je vais donc maintenant en venir aux trois thèmes que j'ai annoncés pour cette conférence, tout précisément. C'est la gestion de la diversité par les règles, la gestion de la diversité par la violence, et enfin la gestion de la diversité par la ritualisation. Alors, concernant maintenant d'abord la gestion par les règles. Bon, on peut définir les sociétés de beaucoup de manières, mais je ne vais pas me lancer là-dedans, mais je dirais qu'une manière de les définir, c'est de les voir comme des systèmes de règles qui organisent les interactions entre des individus différents. Système de règles. Une société n'est certainement pas qu'un système de règles. Ça peut être, c'est aussi une communauté de choses partagées, c'est aussi la définition d'un ennemi qui fait l'unité du groupe, c'est aussi des modes de relation avec l'environnement. Mais je dirais qu'on peut aussi la voir comme un système de règles qui organise les interactions des individus, parce que les individus sont différents, qui instituent la coopération, des règles qui instituent la coopération, mais des règles aussi qui règlent les conflits, ou qui les préviennent, soit qui les règlent quand ils se sont déclenchés, soit qui les empêchent d'advenir parce que ils codifient, ces règles codifient les différences. Alors bien sûr, cette organisation des règles peut être plus ou moins rigide. Les règles peuvent être plus ou moins nombreuses, codifiées, définies. Elles peuvent être écrites ou non écrites. Là, il faudrait que un anthropologue en parle plutôt que moi, et il en parlerait nettement mieux. Mais en gros, une règle, ça c'est toujours quelque chose qui définit quoi va où, à qui, quoi va où, à qui fait quoi, hein, et comment s'organisent des relations entre des individus sous quasiment tous les points de vue, hein, sauf évidemment ceux, s'ils existent, qui sont absolument indifférents et qui n'ont pas besoin d'être traités par des règles. Alors, bien sûr, comme l'homme est un animal à règles et que les sociétés sont des systèmes de règles de cette sorte, les exemples sont innombrables. Hein. Les premières qui viennent à l'esprit sont évidemment les règles concernant les choix du conjoint et l'exercice de la vie sexuelle, hein, les structures de la parenté et les règles de l'exogamie. Bon, nous savons bien qu'aujourd'hui, par exemple, dans notre société, ces règles sont certainement moins précises et moins contraignantes que, disons, à l'époque de Proust ou de Balzac, hein, pour ne pas remonter très loin, ou dans une tribu soudanaise. La détermination de qui peut épouser qui peut se reproduire avec qui, quelles sont les alliances et les mésalliances, qui peut coucher avec qui, parce qu'il ne s'agit pas seulement des règles de l'exogamie, ça peut être aussi l'organisation des prestations sexuelles. Ces règles, il y a encore peu, étaient extrêmement strictes. Hein. Il se trouve que, pour le plus grand plaisir, depuis un certain temps, je lis, ou comme on dit, je relis Proust entier, les règles régissant la vie sexuelle sont, dans la société française de la fin du 19e siècle, sont extrêmement contraignantes et précises. Bon, à l'inverse, d'autres règles concernant, je contraste volontairement les exemples, d'autres règles, par exemple, concernant la répartition des biens et notamment leur transmission par héritage, sont aujourd'hui beaucoup plus contraignantes qu'elles ne l'étaient à l'époque de Balzac ou de Proust. Vous n'entendrez personne dans cette salle aujourd'hui dire autrement que par manière de parler qu'il veut déshériter ses enfants. Hein, tout comme on le fait dans Molière ou comme on le fait chez Balzac, tout simplement parce qu'on ne peut pas le faire. Les règles du droit l'interdisent et que les règles sociales définissent dans le détail, mais dans le détail minutieusement, toute la transmission du patrimoine et sa répartition entre les ayants droit. Alors, toutes ces règles sociales sont garanties par des systèmes de sanctions. Certaines, on le sait bien, sont seulement diffuses. Les sociologues disaient dans le temps qu'elles étaient informelles, mais dans nos sociétés, la plupart de ces règles sont juridiques, à tous les sens de la règle de droit, que ce soit et dans toutes les sphères où s'applique le droit. Or, le droit, aujourd'hui, régit à peu près toutes les sphères de notre vie, que ce soit la sphère fiscale, professionnelle, administrative, commerciale, civile, pénale, procédurale, etc. etc. Un philosophe qui me tient à cœur, puisque j'ai longtemps travaillé sur lui, David Hume, un philosophe écossais du XVIIIe siècle, définissait la justice comme en fait l'ensemble de ces règles qui définissent des échanges, des partages et des obligations. Et il disait qu'au fond, les hommes ne peuvent à peu près rien faire sans règles, et même pas s'entretuer, puisqu'il y a même des règles du duel et des règles du combat. Et c'est vrai aussi qu'en tant que spécialiste de la violence, ce que je sais, c'est que lorsqu'il n'y a même plus de règles pour se tuer, alors là, on tombe dans autre chose encore que la violence, on tombe dans vraiment la barbarie absolue, ce que j'appelle l'ultra-violence. C'est-à-dire quand il n'y a même plus de règles de l'extermination, alors on est dans la folie orgiaque totale. Alors, une règle définit des procédures qui sont répétable et général pour traiter des différences et des relations de ces différences. Par exemple, la différence entre deux personnes qui signent un contrat d'échange de services, la différence et la relation entre deux conjoints ou deux pacsés, ou encore la différence et la relation entre un agresseur et sa victime, entre un handicapé et ses parents, ou un handicapé et la communauté. Et dans la relation sont présents pas du tout, pas seulement les entités mises en relation. Ce n'est pas des relations à deux termes, comme voudraient aujourd'hui que ce soit le cas ceux qui défendent la contractualisation universelle des relations. Mais en fait, sont présents dans cette relation les entités plus un tiers, c'est-à-dire la règle, et ce tiers, c'est le tiers social, qui à la fois pose la norme et en garantit le respect. C'est-à-dire que toute relation bilatérale est en fait une relation avec des tiers, qui inclut aussi un tiers, le tiers étant la règle de droit, ou le social. Bien évidemment, la règle de droit peut elle-même être extrêmement complexe et hiérarchisée. Je n'entrerai pas là dans cette complication, mais c'est vrai que quand on vit dans un État souverain, normalement, dans la règle de droit, et seulement la règle de droit telle qu'elle a été voulue par ce qu'on appelle le législateur, c'est-à-dire par le représentant politique des citoyens. Mais dès que cette société devient un peu ouverte sur l'extérieur et qu'elle entre notamment dans des unions d'ordre supérieur, à ce moment-là, au sein de la règle de droit, il y a la présence de plusieurs tiers. C'est le cas aujourd'hui en droit européen, puisque vous avez toujours le tiers du droit français, hein, le législateur français, mais vous avez la possibilité. Mais normalement, le législateur français doit être en accord, en tout cas cohérent, avec le législateur européen. C'est pour ça que, en cas de litige grave, vous pouvez avoir faire appel auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, qui elle-même représentera un autre tiers encore dans la relation que vous avez avec que ce soit une relation de conflit ou une relation de coopération avec un autre individu ou une personne morale. Donc les règles sociales organisent des interactions entre des individus et des personnes qui sont différents et qui sont placées dans des situations différentes. C'est-à-dire qu'elles ont plusieurs rôles, double ou triple. Quand je dis double ou triple, ce n'est pas que je ne sois pas sûr, c'est qu'il y a là derrière une question philosophique que je n'ai pas le temps de traiter ce soir. C'est-à-dire que les règles doivent assurer la cohérence sociale, c'est-à-dire que la société puisse remplir ses fonctions. Elles doivent organiser les échanges sous le signe de l'utilité et de l'efficacité. Ce que je précise tout de suite, c'est que ces notions peuvent être très relatives. Il y a des sociétés où il y a des règles extrêmement compliquées, avec des formes d'utilité et d'efficacité terminales qui sont extrêmement problématiques, en tout cas pour nous. Et puis, troisièmement, les règles doivent tenir en suspens la violence ou l'anarchie des individus. Ce qui me conduit à distinguer deux finalités de la règle en général. L'une, c'est la recherche du bon fonctionnement social. C'est-à-dire que les individus, par exemple, en âge de se reproduire, trouvent à le faire, que ceux qui meurent voient leurs biens répartis, que ceux qui sont handicapés soient placés dans un statut qui leur permette de recevoir une certaine assistance, etc. Mais ce bon fonctionnement social suppose seulement que cela marche. Et encore une fois, même si cela ne marche pas de la meilleure manière possible, ni même très bien. J'ajouterais que nous avons l'expérience, mais toutes les sociétés ont cette expérience de prolifération de règles qui se superposent les unes aux autres, là où il n'y avait au départ qu'une différence assez simple à organiser. Hein, comme si l'organisation appelait une surorganisation. Il faut régler les règles de l'exogamie, mais à partir de là, on se retrouve partir dans toutes les règles du protocole, les règles de l'étiquette et les règles des cérémonies, hein, qui vont rajouter encore l'organisation aux échanges. La seconde finalité de la règle consiste dans la recherche d'un fonctionnement social éthiquement satisfaisant. La première, c'était l'efficacité sociale. La seconde, c'est la recherche d'un fonctionnement social éthiquement satisfaisant en fonction de normes qui peuvent être d'origine religieuse ou morale. Ce que je veux exprimer ici, c'est la différence entre une société et une société considérée comme juste ou comme bonne. Hein, nous nous contentons très souvent d'une société qui marche, mais souvent aussi, et heureusement, en plus, nous voulons qu'elle soit, que ce soit une société bonne ou une société juste. Il serait intéressant d'ailleurs de considérer tous les cas de figure, le cas d'une société bonne qui ne marche pas, le cas d'une société non bonne qui marche, etc., et de voir comment les hommes font leur choix parmi tout ça. C'est une problématique qui a été largement abordée chez les philosophes. Bon, la règle, elle met de l'ordre dans toute cette diversité humaine, et elle le fait de plusieurs façons. Là, je touche sur le terrain des juristes, et c'est le problème du philosophe, il touche toujours le terrain de gens qui sont plus compétents que lui. Et je sais si les juristes sont compétents et s'ils ont beaucoup de choses à dire, et très longuement, sur toutes les manières d'organiser la diversité. Mais la règle met de l'ordre dans la diversité de plusieurs manières. Soit en posant des différences qui doivent être respectées, consolidées et marquées. Certaines différences doivent être respectées et marquées. Soit elle nie d'autres différences et elle interdit ce qu'on appelle en droit leur discrimination. Ou bien, troisième solution, et en général on trouve ces trois stratégies présentes pratiquement dans tous les droits, soit elles aménagent les différences dans une certaine mesure. Alors là, je ne peux donner que des illustrations, et elles seront toutes banales et convenues, je vous laisserai vous-même en imaginer, parce que, par définition, une règle fait toujours cela. Hein. Elle pose des différences à respecter, elle en nie d'autres, elle refuse des discriminations, et en même temps, elle aménage aussi certaines discriminations. Alors, par exemple, les règles concernant la différence sexuelle sont typiquement des règles qui consolident et entérinent des différences, hein. Et pas seulement celle entre hommes et femmes, mais par exemple entre majeurs et mineurs, entre personnes consentantes et personnes non consentantes. Ce sont des règles aussi qui nient d'autres différences, parfois les mêmes, mais d'un autre point de vue, par exemple qui nient la différence sexuelle du point de vue de l'accès aux emplois ou du point de vue de la représentation politique, dans le cadre des politiques de parité, et puis qui aménagent ces différences sous d'autres angles, par exemple, lorsqu'on a à considérer l'homosexualité ou lorsqu'on a à considérer des changements d'identité sexuelle dans les cas de transsexualisme. Donc, consolider et entériner les différences, condamner des discriminations et aménager d'autres discriminations qui, celles-ci, seront des discriminations légalement reconnues. Je pourrais prendre tout aussi bien un exemple concernant la liberté d'opinion. Les règles juridiques et celles de l'opinion publique, qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais l'opinion publique juge de ce qui est convenable ou non, les règles juridiques définissent et garantissent la différence des opinions et des idées. Bon, ça, c'est le principe de la liberté d'opinion, mais elles en interdisent d'autres. Par exemple, je pense aujourd'hui à la loi Guesso en matière de révisionnisme politique et historique. Et puis, elles en aménagent d'autres. Elles aménagent les différences des opinions en définissant, par exemple, jusqu'où l'on peut attaquer autrui au nom de la liberté d'opinion. C'est ce qu'on trouve dans les lois sur la presse, dans les lois réglementant la diffamation. Je dirais que de manière générale, toute différence, à partir du moment où elle est reconnue, est à la fois en partie reconnue et en partie niée. Hein, du seul fait qu'elle ne constitue plus un fait individuel, mais tombe sous une catégorie générale. Alors, ce que j'ai dit là, c'est que ce sont des simples constatations d'ordre sociologique, d'ordre juridique et anthropologique, mes constatations ne disent rien sur la valeur, au fond, de la diversité. C'est tout à fait une autre affaire. Par exemple, on admettra sans difficulté, je crois que parce que ça, c'est assez de bon sens, que la diversité sexuelle est positive dans la mesure où elle préside à la reproduction. Mais il sera déjà plus difficile, et c'est toute l'histoire de la reconnaissance de l'homosexualité, de reconnaître la diversité au-delà d'une diversité sexuelle à finalité de reproduction, dans le cas, encore une fois, de l'homosexualité. Et il est encore plus difficile de reconnaître la diversité quand c'est la diversité pathologique de désirs sexuels individuels qui conduisent à des cas de délinquance graves. L'appréciation dépend du jugement qu'on porte sur le rôle de telle ou telle différence dans le fonctionnement social. Alors là, je dirais que les différences de jugement dépendent énormément selon les sociétés. Pour les libéraux, et je dis bien les libéraux au sens du libéralisme politique, c'est-à-dire du 18e et du 19e siècle, c'est-à-dire des gens qui étaient des partisans de la liberté et des penseurs de gauche, les libéraux, par exemple, du 18e, 19e siècle, estimaient que les différences d'opinion, le non-conformisme intellectuel, l'originalité, même la dissidence, même l'extravagance, étaient indispensables à la société démocratique. Si vous lisez le livre de John Stuart Mill sur la liberté, vous verrez quel vibrant éloge et défense ce penseur qui était par ailleurs extrêmement convenable et conformiste fait de l'extravagance, de la dissidence, de la diversité des idées, y compris d'ailleurs, il aurait été totalement opposé à des lois restreignant même par exemple les affirmations en matière de révisionnisme, en considérant que même la recherche historique peut bénéficier d'affirmations libres dans le cadre des hypothèses possibles en histoire. Bon, à côté, vous avez d'autres. Il y a un penseur célèbre du XVIIIe siècle, Mandeville, qui lui justifiait la diversité des vices, et quasiment de tous les vices, à raison de leur utilité sociale. D'autres, en revanche, seront extrêmement restrictifs et voudront limiter très strictement la reconnaissance des différences pour ne pas affaiblir le sentiment de communauté. Encore une fois, je dirais que là, on a affaire à des variations, à une diversité elle-même extrêmement forte sur ce qui peut être accepté en matière de différences individuelles. J'en viens maintenant, deuxième mode de traitement, beaucoup moins drôle, encore que si parce que les labyrinthes du droit peuvent être drôles, mais beaucoup moins drôle parce que c'est vraiment dramatique, c'est des réactions vis-à-vis de la diversité qui sont la violence et la guerre. Et ça, je crois que c'était indispensable d'en parler dans ce cycle, parce que l'histoire de la diversité humaine, c'est l'histoire des guerres, des invasions, des persécutions, des exterminations, c'est aussi l'histoire des assimilations forcées. Et alors, l'historien de la violence ne peut que se lancer dans un catalogue qui est assez sinistre, que je limiterai au strict nécessaire, en essayant ici encore de classer les formes de violence. Je dirais que d'abord, il y a des violences d'anéantissement, purement et simplement. C'est bien sûr, vous pensez tout de suite aux violences génocidaires, violences d'anéantissement pour détruire un groupe considéré comme absolument nuisible ou absolument dangereux par un autre groupe. Alors là-dessus, je ne vais pas m'attarder. Je vous renvoie, si vous ne le connaissez pas déjà, à la très extraordinaire conférence et émouvante conférence qu'avait donnée l'historien anglais Mark Levine à l'automne 2000 dans l'Université de Toulouse-Savart sur les génocides. Il avait marqué à quel point ils sont une constante de l'histoire et il avait montré qu'un groupe, un groupe ethnique, mais pas toujours, parce que ça peut être un groupe identifié sur des bases religieuses ou sur des bases politiques, par exemple les Templiers, les Cathares, les Koulaks, les ennemis de la Révolution, les intellectuels, un groupe est posé comme à éliminer et il est transformé en bouc émissaire de toutes les difficultés, défaites et échecs d'un autre groupe. Levine a bien montré à travers son étude, et une étude fortement comparative, les constantes de ce mécanisme de transformation en bouc émissaire. Et du coup, cela donne aux violences génocidaires une dimension religieuse et quasiment sacrificielle qui frappe aussi dans pratiquement tous les cas de violences génocidaires. Alors, parfois... Mais parfois non. Parfois s'ajoutent des dimensions orgiaques, des dimensions de massacre, mais il y a des ethnocides qui sont des génocides techniquement organisés, administratifs, quasiment propres, et puis d'autres qui sont des orgies et des déchaînements de massacres. Inutile d'insister, Anne-Marie Moulin en a dit deux ou trois mots, sur le fait que ces politiques s'accompagnent presque toujours de métaphores médicales. Il s'agit d'éradiquer, de venir à bout de l'infection, de tuer la vermine, de faire disparaître la peste, et bien sûr, avec bien avant l'immunologie, les pestes et les épidémies ont fourni leur stock de métaphores. Je m'étonne seulement que, par exemple, ces métaphores se retrouvent même, vous voyez à quel point nous y sommes habitués, elles se retrouvent même dans une expression aussi bien intentionnée que peste brune, que l'on voit encore employer quelquefois. Ça, ce sont donc les violences génocidaires et ethnocidaires. Il y a d'autres sortes de violences par rapport à la diversité qui sont des violences de confinement et des violences d'apartheid. C'est autre chose. Elles ne recherchent pas forcément la destruction, même si quelquefois elles aboutissent au même résultat, mais elles cherchent à cantonner ou repousser l'autre ailleurs, hors du territoire, dans des zones défavorisées ou moins favorisées, ou dans des réserves. Vous savez que dans un premier temps, un des plans d'Hitler était d'envoyer les Juifs à Madagascar. La politique de réserve et de confinement des minorités aborigènes ou des minorités indiennes en Amérique sont du même ordre. Le nettoyage ethnique n'est pas forcément strictement génocidaire. Il peut consister aussi à vouloir débarrasser une population d'un territoire et vouloir la faire fuir ailleurs. Nettoyage ethnique, apartheid, déportation, transportation, comme on disait au XIXe siècle, les politiques intérieures de ségrégation, les politiques d'expulsion, tout ça, ce sont des illustrations de ces stratégies de confinement, d'isolement, de mise en quarantaine, avec parfois, quelquefois c'est seulement un prétexte, parfois la perspective d'un développement séparé, comme c'était le cas dans la doctrine de quasiment métaphysique de l'apartheid, parfois juste un confinement et une quarantaine, on construit une barrière. Troisième forme de gestion violente de la diversité, là, ce ne sont plus du tout les destructions ou le confinement, mais ce sont les politiques de conversion, assimilation, absorption. Alors là, on retrouve à plein ce que Foucault a appelé des mesures biopolitiques, c'est-à-dire des politiques de population, passant par le contrôle de la reproduction de certaines populations, l'interdiction ou non de se reproduire, le contrôle de l'accès aux soins, l'accès à la vaccination, l'accès aux médicaments, l'accès aux soins intramédicaux. Les aspects de ces politiques d'assimilation et d'absorption ne concernent pas seulement la reproduction, parce qu'elles peuvent concerner aussi toute la diversité culturelle et plus seulement la diversité ethnique et génétique. C'est alors qu'on a affaire aux conversions forcées, au lavage de cerveau, à la rééducation politique, pour tout ce qui concerne les croyances religieuses, les croyances, les convictions politiques. C'est l'interdiction des langues nationales et régionales, la prohibition des manifestations culturelles, du folklore, la destruction des œuvres d'art et des collections d'objets culturels. Ça, c'est des formes d'atteinte à la diversité pour mettre en place des politiques pures et simples d'assimilation. Alors, une place à part serait à faire dans ces politiques à un phénomène qui est une constante de l'histoire, mais qui est de découverte récente. C'est une constante parce que c'était sous notre nez. On le voyait dans tous les textes, par exemple, de tous les textes qu'on a appris quand on faisait du latin ou du grec, mentionnaient cela. Mais comme c'était des latins et des grecs, ils devaient être civilisés et ça ne se voyait pas trop. Mais une place constante est à faire dans ce phénomène, dans cette liste de phénomènes, au viol comme arme de guerre. Alors on l'a découvert à l'occasion des événements des Balkans, et bien sûr aussi à cause de la montée de la conscience féministe, mais c'est vraiment une constante historique, le viol comme arme de guerre, et c'est encore une fois, c'est une constante, mais dont on a pris conscience que récemment, c'est que les guerres se sont toujours accompagnées de viols en quantité massive, et avec évidemment certaines plus que d'autres. Alors, bien sûr, il y a la légende qui vient enjoliver les fêtes. Hein, et tout le monde trouve et s'extasie devant l'enlèvement des Sabines. Hein. Mais l'enlèvement des Sabines, bon, bah, c'est une politique de viol de guerre. Et l'histoire est scandée de ces viols, souvent accompagnée de massacres des hommes en âge d'être des reproducteurs. Alors, cette politique est à la fois, bien sûr, une manière de terroriser les populations, une manière d'humilier les vaincus, mais c'est aussi froidement une stratégie de peuplement et une stratégie d'interpeuplement. Alors, les faits les mieux connus dans les dernières années récentes ont été ce qui s'est passé lors des purifications ethniques en Bosnie et en ex-Yougoslavie, mais tout récemment aussi, un peu moins récemment, on a fait le bilan, en quelque sorte, par exemple, des viols de femmes allemandes par l'armée soviétique en 1944-1945, au moment de l'invasion de l'Allemagne et de la prise de Berlin. Hein. Et il y avait en gros 6,5 millions de soldats de l'armée soviétique, et des estimations assez raisonnables disent que fournissent le chiffre d'environ 2 millions de femmes allemandes violées. Hein. C'était une campagne systématique, organisée, accompagnant la reconquête de l'Allemagne. Alors, encore une fois, je ne m'attarde pas là-dessus, il faut distinguer donc entre les stratégies éliminatives, les stratégies, je dirais, ségrégationnistes, et puis les stratégies assimilatrices. Les unes suppriment purement et simplement la diversité, les autres la contiennent dans des réserves, et les autres, enfin, essayent de les supprimer en les absorbant dans la communauté la plus forte. Avec l'ironie dans le cas des politiques de ségrégation et dans le cas des politiques d'absorption, le résultat peut ne pas être au rendez-vous. Hein. Il est bien connu que parfois les conquérants ne sont pas forcément ceux qui arrivent à absorber les conquis et que celui qui est cannibalisé peut se retrouver absorber son cannibale. Le destin de l'Amérique latine, de ce côté-là, est assez significatif, puisque les conquérants espagnols ont largement pratiqué le génocide sur les populations indiennes, mais ils ont été aussi en grande partie absorbés par les indigènes survivants, et même les cultes religieux catholiques ont été en grande partie absorbés par les cultes indigènes. Je renvoie là-dessus, pour ceux que ça intéresse, aux travaux, par exemple, de Serge Grusinski et de Carmen Bernand sur les métissages culturels et les violences en Amérique latine. Alors bien sûr, aujourd'hui, il y a des versions douces de ces violences. L'impérialisme économique, on en parle assez, la diffusion de produits culturels, de modes de vie standardisés, aboutissent à des assimilations efficaces, sans violence ouverte. La propagande et la manipulation des médias constituent déjà un degré il me semble un peu plus visible de violence. Je crois que là, ce sont des questions qu'il faut discuter objectivement. Hein. Il ne s'agit pas de dire que l'impérialisme culturel américain est une forme d'assimilation violente des populations et de réduction de la diversité. Il faut discuter pour savoir si un certain nombre de facteurs sont réunis. Par exemple, un cas assez intéressant concernant les situations en Afrique aujourd'hui, est-ce que le manque d'approvisionnement, les famines, le manque de médicaments peuvent être vus comme des instruments de génocide indirect? Pour ma part, ma réponse sera nuancée et circonstanciée. C'est-à-dire que dans certains cas, oui, par exemple dans le cas des Biafra des années 60, dans le cas du Sud-Soudan depuis maintenant 10 ou 20 ans, dans d'autres cas, non. Hein, je ne dirais pas dans le cas de l'Angola actuellement, devrais-je me faire accabler de noms d'oiseaux, pas dans le cas de l'Angola. La différence tient aussi à la présence ou non de facteurs de mal-gouvernance ou de très mauvais gouvernement intérieur quand c'est le cas. Mais encore une fois, je pense que ce sont des questions qui doivent être traitées très objectivement avec une analyse de tous les facteurs qui sont en jeu au lieu de se précipiter dans des grandes généralités. Alors je voudrais conclure sur ces violences maintenant par deux remarques en forme de précaution. D'abord, encore une fois, n'allez pas croire que toute guerre ou toute violence est une attaque contre la diversité. Hein, ça, c'est certainement pas vrai. D'abord parce qu'il y a des violences et des guerres pour défendre la diversité. Hein, des violences et des guerres de survie pour essayer de protéger ou de faire valoir des différences, de leur donner l'espace nécessaire à leur éclosion. parfois à juste titre, parfois moins. Hein. Les guerres d'indépendance ont souvent été dans ce cas. Les terrorismes ethniques sont souvent dans ce cas. Les terrorismes identitaires sont souvent dans ce cas. Maintenant, que penser du terrorisme de l'ETA ? Je laisse la question ouverte. Que penser du terrorisme irlandais ? Je laisse la question ouverte. Que penser d'un éventuel terrorisme breton ? Je laisse la question ouverte. Mais ça peut être éventuellement des violences pour faire valoir des différences, pour défendre une diversité. Et puis, j'ajouterai dans ces remarques qu'il y a des violences qui n'ont rien à voir ni avec la défense, ni avec l'agression d'une diversité. On peut piller son voisin, non pas parce qu'il est différent, mais parce qu'il est riche et qu'il y a quelque chose à piller. Et on peut aussi se défendre contre les pillages du voisin. Comme spécialiste de la violence, j'estime toujours indispensable de répéter que la violence est un instrument du comportement rationnel, pas toujours, mais souvent, qu'elle sert à contraindre quelqu'un à faire quelque chose que d'abord il ne voulait pas faire et qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir à s'en prendre à la diversité pour vouloir contraindre quelqu'un à faire quelque chose. Dernière remarque sur la haute seconde remarque, c'est que la violence et l'affrontement peuvent commencer comme choc de la diversité ou même choc d'une communauté contre ce qui lui est étranger et finir par une mise en relation. Alors ça, je sais bien que ça a un petit goût de défense hegélienne de la violence de l'histoire, hein. Là on retrouverait, je dirais, un peu l'ambiguïté du rapport à la diversité. Elle est menaçante, elle est aussi attirante, et on peut finalement découvrir au bout d'un certain temps que son adversaire est un partenaire, peut-être un partenaire, peut-être un allié ou un collaborateur. Ce à quoi je pense, c'est pas du tout à des illustrations européennes, c'est à une remarque d'un historien africain extrêmement estimable qui s'appelle Ali Mazrui, kényan, qui disait il y a une trentaine d'années, alors qu'en politique intérieure, ce n'est pas le conflit, mais la résolution du conflit qui fait avancer l'intégration nationale, dans l'intégration régionale, c'est le conflit lui-même qui intègre en ouvrant à la pénétration. Et il poursuivait, la vallée du Nil pourrait bien être unifiée en un système politique régional, non seulement par son fleuve, mais aussi par le sang répandu. Cet avis n'est pas récent, hein, c'est un avis des années, de la fin des années 60 sur l'analyse de conflits régionaux en Afrique. Il arrive que des groupes vivent à part, hein, séparés, et que le conflit débouche sur une régionalisation. Encore une fois, je pense qu'il faut se méfier de ces explications parce qu'elles ont un petit côté sanctification hegélienne de l'histoire, mais effectivement, il peut naître du conflit des intégrations supérieures. Organisation donc par la règle, traitement est vigoureux et radical par la violence. La diversité est quelque chose avec quoi on compose ou qu'on tente d'éliminer ou de neutraliser. Mais je crois qu'il y a encore une autre manière de la traiter et je veux en parler aujourd'hui parce que c'est probablement celle qui aujourd'hui nous est la plus familière. Et j'emploierai à ce sujet le terme de ritualisation. C'est-à-dire constitution ou transformation de la diversité en rite. Alors je définis là la ritualisation, non pas à la manière des gens qui s'occupent de religion, mais à la manière des éthologues. Un rite chez un animal, et puis ensuite un rite chez un homme, c'est une forme de comportement qui a perdu sa fonction première et qui persiste dans une nouvelle fonction, une fonction essentiellement d'ailleurs de communication, en appelant une réponse nouvelle qui est aussi une réponse de communication. Et la fonction de communication de cette ritualisation est assurée à travers deux caractéristiques du comportement, c'est qu'il est à la fois répété, hein, une répétition assez compulsive, pour bien insister et bien montrer l'importance du rite, et qu'il est exagéré et théâtralisé. En fait, dans la ritualisation, le fait de la communication importe beaucoup plus que ce qui est communiqué. Je dirais que les rituels, aussi bien les rituels sociaux, servent à créer de la communication sociale, à établir du lien. Et il me semble qu'aujourd'hui, une grande partie de la diversité humaine fait l'objet d'actes et de conduites qui les mettent au centre d'un rite de communication, ce qui assure, je dirais, l'appréhension de la diversité, mais en même temps, la neutralisation de ce qu'elle peut avoir d'inquiétant, de dangereux. d'absolument autre ou éventuellement de malin au sens de malignité particulière. Bien sûr, c'est l'idée que j'aborde maintenant pour finir. Elle demanderait de développer en détail et de tester à partir d'enquêtes très concrètes. Mais je pense à l'énorme importance aujourd'hui dans notre vie de la référence au folklore, alors qu'en fait, nous nous y intéressons peu en profondeur, l'énorme importance de phénomènes comme la patrimonialisation et surtout l'extrême importance du phénomène du tourisme et de l'expérience de l'exotisme, qui sont, à mon sens, autant d'illustrations, autant d'exemples de nos manières de ritualiser la diversité pour profiter de ce qu'elle a d'attrayant et de pittoresque et en même temps en profiter sans crainte et sans danger parce qu'on est dans un processus de ritualisation. Songez seulement que le tourisme est la première industrie du monde et que c'est bien avant le pétrole, le nucléaire, l'automobile, l'informatique et tout ce que vous voulez, et qu'il y a de fortes chances pour que, sauf conflagration mondiale, il continue à être la première industrie du monde, et que cette industrie du pittoresque, de la diversité, de la folklorisation, de la patrimonialisation va encore se développer. C'est-à-dire qu'au lieu de voir dans la diversité des coutumes, des idées, des croyances, des défis, À nos propres coutumes et croyances, des défis à nos propres idées, avec ce qu'elles peuvent avoir de perturbant, de déstabilisant et de violent, eh bien, nous les abordons de manière ritualisée, stéréotypée, reconfigurée, à travers, doublement reconfigurée, c'est-à-dire à travers nos propres rites de découverte, d'accès et d'appréhension, à nous, je dirais, visiteurs, touristes, badauds, amateurs d'exotisme, mais aussi reconfigurés à travers l'effort de ritualisation de l'autre, l'effort de ritualisation du divers et du différent qui s'offre à participer au rite. De ce point de vue, je dirais que même notre célébration de la différence et de la diversité fait partie du rite aujourd'hui. Elle en constitue le cadre de référence, la condition même d'existence. Si bien que je ne suis même pas sûr qu'on puisse dire que nous sommes plus ouverts à la diversité. J'ai l'impression que notre ouverture, elle fait partie du rituel. Alors, quels exemples donnerais-je ? Tous les exemples de folklorisation de la différence, d'exotisme et d'exoticisation. Mais pour m'en tenir à un seul exemple de ce que c'est qu'une ritualisation de différence, je donnerais l'exemple avec le double processus d'ajustement dont j'ai parlé, de la part du spectateur et de la part de celui qui participe au rite, je donnerais l'exemple de la Gay Pride, qui me semble folkloriser, médiatiser, rendre tout à fait exotique une différence sexuelle qui, il y a peu, était non tolérée, était parfois violemment réprimée. Et j'ajouterais que cette ritualisation s'accompagne aussi de la normalisation juridique du statut homosexuel. Alors, le résultat de ces ritualisations me semble assez ambigu, parce que il faudrait vraiment être sot pour le nier et surtout pour le refuser. Il y a indiscutablement une pacification de la relation à la différence. Et je vous dis que dans le même temps, cette différence est fortement encadrée par les règles du droit qui prolifèrent. Mais bien évidemment aussi, c'est une défiguration de la diversité qui devient folklorique, superficielle, pittoresque, divertissante. Alors que peut-être elle pourrait être foncièrement déstabilisante, perturbante ou ennemie. Les procédés de ritualisation privilégient les traits les plus superficiels de la diversité, neutralisent ce qui, dans la diversité, peut être source d'une remise en question, d'une agression ou d'une atteinte, ce qui peut être source, je dirais, d'une véritable incompatibilité. Et souvent, j'ai l'impression, mais encore une fois, je ne le condamne pas, parce qu'il ne faut pas oublier que de l'autre côté de la balance, il y a tous les avantages du processus. J'ai souvent l'impression que l'éloge de la diversité est aujourd'hui l'éloge d'une diversité pour touristes, pour visiteurs pressés, pour hommes de médias, une diversité qui est bénigne, vécue de manière bienveillante par un promeneur qui, de toute manière, rentre ensuite chez lui bien au chaud. Pour revenir toujours à un penseur que je trouve très intéressant, c'est Stuart Mill. Si des penseurs non conformistes comme lui ont tellement célébré la dissidence, l'originalité des idées, l'extravagance, c'est parce qu'ils y voyaient pas du tout du pittoresque, mais des ferments de changement, des défis à la société qui la contraignent à changer, à se réajuster, et pas du tout du pittoresque exotique. Ils y voyaient même une charge de violence. Et c'est en ces termes-là qu'ils acceptaient la diversité. C'est pas en termes de rituel. Voilà, j'ai quasiment terminé, parce que j'en viens à ma conclusion. Elle va être rapide et décevante. Mais je dirais que c'est le travail du philosophe, s'il est à peu près sérieux, d'être décevant à la fin, parce que je n'ai pas de message à vous délivrer. De toute manière, il y a eu toutes ces conférences avant et dans vos têtes, il doit y avoir, j'espère, beaucoup de réflexions qui se sont formées naturellement par le choc des pensées, et j'ai encore moins de solutions générales à recommander. Cette série de conférences sur la vie a montré que la diversité est au cœur de la vie et du vivant. Hein, et je dirais qu'il faut revenir quand même à la pensée profonde de Darwin et de l'évolution. Il n'y a pas à célébrer ou à déplorer cela. Hein. La diversité, elle est là comme la vie est là et comme l'évolution qui fait la vie. Hein. Il n'y a pas de jugement de valeur à porter en disant qu'on est pour ou qu'on est contre. Hein. Ça fait partie du processus et dont nous sommes nous-mêmes partie. Notre rôle à nous, être vivants, il ne faudrait quand même pas oublier que même quand nous réfléchissons, nous sommes tout bêtement des primates qui réfléchissons. Notre rôle à nous, être vivants, c'est peut-être d'abord de prendre conscience de ces faits. Et je dirais que ça aura au moins un avantage, bien que je ne veuille pas donner de recommandations, c'est nous évitera les fureurs identitaires. Et ça nous évitera peut-être aussi la facilité de la dispersion, du divertissement dans le bariolage exotique. Hein. La soumission de la diversité aux règles, je vous l'ai dit, est un bon expédient. C'est même l'expédient qui permet aux sociétés de fonctionner. Mais ça demande beaucoup d'inventivité. Et paradoxalement, c'est un paradoxe qu'il faut maintenant sur lequel je dois insister, cette inventivité crée une diversité supplémentaire, c'est-à-dire la diversité des règles. C'est-à-dire qu'on normalise en quelque sorte la diversité à coup de règles, mais les règles sont autant de diversité supplémentaire entre les sociétés. Hein. Même au niveau du droit, allez comparer par exemple des droits aussi simples que le droit de l'héritage dans des pays européens. Et vous verrez qu'ils sont absolument différents du tout au tout quasiment en Angleterre, en Espagne et en France. S'il n'y a pas une diversité de la règle qui se surajoute à la diversité culturelle et qui la croit encore, je ne sais pas ce que je dis. Donc c'est un bon expédient. La neutralisation de la diversité par la violence, c'est une tentation, mais je crois que c'est une tentation qui est mortifère, et mortifère à tous les sens du terme, c'est-à-dire au propre et par les conséquences, parce qu'à supprimer la diversité, eh bien, on finit par supprimer la vie au propre directement et les possibilités qu'a la vie d'évoluer. Quant à la ritualisation, c'est aussi un expédient pacificateur, hein, qui pacifie, mais qui empêche peut-être aussi de prendre au sérieux la diversité en la transformant en pittoresque. Alors, l'avenir, je ne vais pas faire de prédiction sur l'avenir, mais il se peut, je dirais, c'est ce que j'ai abordé rapidement dans mon tout dernier, le plus petit, hein, celui sur humain, inhumain, trop humain, il se peut que nous ayons affaire à deux cas de figure nouveaux, dans un assez proche avenir, sans faire de la science-fiction. Alors, premier cas de figure, ça serait la mise en place et la consolidation, c'est-à-dire la transmission, la reproduction, de différences biologiques internes à l'espèce humaine grâce aux biotechnologies, hein, que naissent des catégories d'hommes au sein de l'espèce humaine, des catégories d'hommes surdoués, des catégories d'hommes qui ne sont pas susceptibles d'être atteints par telle ou telle maladie, des catégories d'hommes aux performances sportives tout à fait exceptionnelles. C'est une possibilité, hein, c'est une possibilité qui est déjà d'ailleurs en partie en place. Donc la création de différences biologiques internes et leur reproduction au sein de l'espèce de différences grâce aux biotechnologies. Bon, ce cas de figure, je dirais tout de suite que ce n'est pas si nouveau que ça, parce que ça ne serait jamais que le retour sous une nouvelle forme des différences de rang, ce que les penseurs du XIXe siècle appelaient les rangs, différences de rang que l'humanité a connues pratiquement tout au long de son histoire, avant de connaître les sociétés démocratiques. Dans toutes les sociétés hiérarchiques, il y avait des sociétés de rang, et ces sociétés de rang n'étaient pas, même si elles étaient pour nous des sociétés de rang par convention, elles étaient pour ces sociétés des sociétés de rang par nature. La différence serait pour nous que la science et la technique produiraient ces différences, et qu'en plus elles risqueraient de la produire sur la base de nos désirs, alors que jusqu'ici, ces différences étaient justifiées par la religion et bien imposé par la force. La question qui se poserait là, par rapport à ce cas de figure, ce serait à quoi pourrait ressembler, dans un immédiat assez proche, de manière assez proche, pourrait ressembler une société inégale qui serait voulue de nouveau. Comment est-ce qu'on pourrait envisager une société, alors que nous sommes encore dans des sociétés démocratiques, de nouveau une société inégale qui serait voulue? Sur la base des possibilités scientifiques et sur la base de la volonté des individus. Deuxième hypothèse, deuxième cas de figure, alors la différence, c'est la production par l'espèce humaine d'une espèce nouvelle, des sortes de robots ou d'androïdes humains, ou des mutants, des mutants vivants, au nom d'une évolution qui serait remise en marche volontairement, soit pour résoudre certains problèmes, soit simplement parce que c'est possible et puis qu'après tout, ça vaut la peine d'être tenté, que c'est grisant, que c'est une nouvelle aventure. Pourquoi pas faire des androïdes, puisque le jour où c'est possible, après tout, ça serait peut-être intéressant de remettre en marche l'évolution de cette manière. Alors là, on aurait pour le coup affaire de nouveau à une vraie évolution et donc sans grande possibilité de juger au nom des valeurs, comme pour toute évolution. Maintenant, je ne sais pas du tout que penser de cette seconde hypothèse, ce que je voudrais simplement vous rendre sensible en terminant cette conférence, c'est que ces deux possibilités sont très proches de nous en ce moment, sans faire de la science-fiction et sans faire du scientisme. Sont très proches de nous. Il y a d'ores et déjà une tentation biotechnologique et d'une fabrication de surhommes à l'intérieur de l'humanité. Et d'autre part, on peut se demander ce qu'il en serait de la véritable fabrication d'un surhomme en tant que nouvelle espèce. Alors, la seule mise en garde que je ferai, et ce sera mon dernier mot, c'est que il faudrait que la vie qui s'exprime en nous, parce qu'après tout, comme le disait mon maître, le philosophe Canguilhem, la pensée, c'est un instrument d'adaptation d'un vivant. Il faudrait que la vie qui s'exprime en nous sache affronter la diversité, mais ni trop efficacement, ni trop rationnellement. Tout simplement parce que si nous venions à rêver de totalement contrôler notre environnement et nous-mêmes, de croire que nous pouvons totalement le faire, nous serions démentis assez rapidement, mais surtout nous serions démentis dans des conditions particulièrement difficiles, c'est-à-dire celle d'un excès de confiance au milieu d'une inconscience qui ne se douterait de rien. Mais c'est la seule recommandation et mise en garde que je puisse faire. Merci.
En tant qu'être vivant, oui, la diversité du vivant est nécessaire, même si c'est dans un sens différent de celui dont a parlé Darwin, auquel vous vous référez encore. En tant qu'être humain, la diversité des vivants pour lesquels nous sommes une calamité est extrêmement et de plus en plus nécessaire à comprendre. Je doute qu'une université, fût-elle de tous les savoirs, soit adéquate pour traiter de la diversité. Et de fait, même si on peut se réjouir de ce mois de juillet où le sujet a été abordé, 10 sur les 26 conférences traitent exclusivement de l'humain. Plus 2 sur les animaux domestiques, plus 1 ou 2 sur les animaux, et je vous épargne le détail de cette analyse. Si le titre avait été « La diversité de l'humain », on pourrait se réjouir de cette proportion. Dans cette logique anthropocentriste, il faudrait un millénaire pour traiter réellement de la diversité du vivant. Est-ce que nous avons un millénaire devant nous pour comprendre la diversité, la complexité et la relativité des vivants, puisque c'est une pluralité?
Oui, je vous répondrai un petit peu par une manière par Épirouette d'abord et ensuite par une réponse un peu plus sérieuse. La Épirouette, c'est qu'un millénaire, c'est pas beaucoup à l'échelle de l'aventure et humaine et de la vie. Et ça, c'est une question qui serait à voir. Non, la réponse peut être plus sérieuse, c'est que évidemment, il y a un anthropocentrisme dans cette programmation, mais tout simplement parce que, encore une fois, l'être connaissant et qui énonce ce savoir, c'est l'être humain. Donc, forcément, il y a un biais, je veux dire, à partir du locuteur. Hein. Je ne suis pas assez. Ça, c'est pas une pirouette. Je suis pas assez spinoziste, si vous voulez, pour pouvoir parler au nom de la substance de vivante. Donc, pour pouvoir rendre également sa place à tous les êtres, à tous les modes de la nature et à toute la nature. Forcément, c'est nous qui parlons en quelque sorte. C'était le sens de cette référence que j'ai faite à Canguilhem. Nous sommes des êtres vivants qui, en déployant cet effort de connaissance, donc forcément, il y a ce biais de perspective. Si vous voulez. Ça me fait penser au dessin d'Ernst Mach, si vous voulez, où quand on voit, qu'est-ce que voit un champ visuel, eh bien, il voit en partie le corps dedans, c'est tout. Et on ne peut pas le sortir, ce corps.
On parle beaucoup d'individualisme dans nos sociétés. Mais je suis au contraire frappé par le fait qu'il y a un désir d'appartenance à un groupe qui est un sentiment quasi universel. Et pas seulement à cause de conflits, on peut prendre des conflits actuels bien sûr dans le monde, et on appartient à un camp ou à un autre, quelquefois par force, mais enfin on appartient à un camp ou à un autre. Et quelquefois c'est très volontaire, sans avoir la fleur au fusil. Mais si vous prenez quelque chose de beaucoup moins tragique, comme les compétitions internationales de football, moi je suis absolument ahuri de voir qu'on puisse prendre parti, suivant qu'on est français, suivant qu'on est brésilien, suivant qu'on est ceci, cela, pour prendre parti en faveur d'un nationalisme qui est d'autant plus bizarre que les équipes sont formées de gens qui, en général, n'appartiennent pas au pays.
Je souscris à ce que vous dites. Moi, je crois qu'il y aurait deux. Il y a deux mouvements qui vont en sens à peu près contraire. Nous avons une volonté de recherche de repères et d'appartenance, y compris très fictive. Puis, les gens, je suis pas sûr que à part quelques gens un peu imbibés de bière et assez féroces comme hooligans, les gens croient beaucoup au nationalisme footballistique, mais il y a une volonté de repérage. Et là, ça serait, je veux dire, se trouver des plumes, se trouver des atours, se trouver des parures, hein, en quelque sorte. Et puis, en même temps, il y a un sentiment d'appartenance à l'humanité qui progresse lentement à travers, par exemple, les procédures d'élargissement de règne du droit et d'incréation d'un droit international, de l'humanitaire, etc. Les deux sont se contrebalance avec parfois des retours en arrière, peut-être des retours de barbarie, pas si sûrs d'ailleurs. Et là-dedans, ce qu'il faudrait voir, ce serait aussi quel serait le poids, ça me renverrait plutôt à la première règle, à la première mode de traitement, c'est quel est le poids du traitement de la règle, si vous voulez, quel est le rôle de tout ce que font les hommes de loi et nous, je veux dire, pour cet élargissement.
Oui, je vais poser deux questions. Et la première philosophe que je m'adresse, parce que l'édit de Caracalla, dans l'Empire romain, a donné la citoyenneté romaine à tous les Romains, n'est-ce pas, les populations qui dépendaient de leur... Alors, est-ce qu'il y a autre chose qu'un principe juridique là-dedans, du point de vue du pouvoir et du point de vue de l'opinion ? Ça, c'est la première question. Deuxième question, le principe de précaution. Dans ce principe, c'est toujours après les catastrophes qu'on s'imagine qu'il faut s'occuper du principe de précaution. Et la contradiction, c'est qu'on dit on fera mieux la prochaine fois. Finalement, ça se résume à ça. Les scientifiques parlaient toujours, avant qu'on ne parle de ce principe de précaution, de prévision. Notamment, le système nucléaire qui existe depuis la Deuxième Guerre mondiale, on s'est préoccupé partout, sauf les gens qui trouvaient que ça coûtait trop cher, du principe de prévision. C'est le principe de prévision scientifique.
Bon, c'est difficile de vous répondre parce que d'abord les deux questions sont assez différentes, mais la première demanderait quand même d'être traitée par quelqu'un vraiment spécialiste de l'Empire romain. Moi, disons que ce que je trouve qui est le plus intéressant, c'est de voir comment étudier les phénomènes impériaux pour voir comment, en fait, chaque fois l'humanité a résolu des problèmes d'extension du droit et d'extension aussi d'un impérium. Parce qu'il faut bien voir que l'Empire romain, ce n'est pas seulement l'extension de la citoyenneté romaine, c'est aussi l'extension de modes de construction, de techniques, c'est aussi au départ un impérialisme militaire. Donc, je dirais, ma réponse sera rien de bien précis, mais ce qui est toujours intéressant, c'est d'étudier les phénomènes d'impérialisme pour voir comment, en fait, des élargissements des appartenances humaines ont été possibles. Et certains types d'empires ont été des empires de rouleaux compresseurs, hein, des empires épouvantables. D'autres sont des empires beaucoup plus friables et même des communautés beaucoup plus fictives. Hein, je veux dire, pensez à la difficulté de construire une communauté européenne. Mais je veux dire, c'est intéressant à étudier dans les détails. Pour ce qui est du principe de précaution, moi, je ne partage pas votre remarque, très franchement, parce que c'est pas après. Hein, je veux dire, il faut voir aussi toutes les catastrophes qu'on évite. Comme on les a évitées par définition, on ne peut pas avoir vu leur gravité. Mais moi, je suis plutôt frappé quand même du nombre de choses extrêmement compliquées, extrêmement dangereuses que les sociétés technologiques font, avec finalement des catastrophes assez peu fréquentes et assez épisodiques. Hein, pour dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais je veux dire, quand on... l'histoire du chemin de fer, ça a été l'histoire de catastrophes gigantesques hein, au XIXe siècle.
Bon, alors, n'étant qu'une femme, je vais rabaisser le débat à une étude de cas. Je vais comparer le cas de ma mère, qui était pharmacienne de première classe, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire universitaire, et M. Ferrat Abbas, qui était également pharmacien de première classe, c'est-à-dire également universitaire, et qui avaient tous les deux le même statut, lui parce qu'indigène, elle parce que femme. Cela juste après les années 20, puisque ma mère a été de la première promotion de jeune fille, ayant été autorisée à passer le baccalauréat mathématiques élémentaires après les ravages que vous connaissez dans les tranchées françaises. Deuxième cas que je voudrais citer, un petit livre qui circule beaucoup dans les écoles et qui plaît beaucoup, qui s'appelle « L'éléphant amoureux d'une bicyclette ». Alors c'est... histoire pour enfants, c'est un éléphant, bon, il est amoureux d'une bicyclette, il veut épouser sa bicyclette, et puis bon, y a un complot familial pour le faire épouser une éléphante, et heureusement, un très méchant chasseur tue l'éléphante, ce qui fait que, ayant accompli son devoir de mâle, l'éléphant peut vivre en paix avec sa chère bicyclette. Et puis, troisième... sur le rang et l'inégalité, j'ai eu à former en éducation civique des enseignants, des dom-tom, ou plutôt des tom, puisqu'il s'agissait de gens de Nouvelle-Calédonie et de Tahiti, juste avant les accords de 89, et je peux vous dire que leur enseigner le système napoléonien de notre code civil, ce n'était pas une évidence. Alors, ma question est, concernant l'université qui inquiète et la diversité qui inquiète. Et je voudrais redire sur ce qui s'est passé hier soir, à savoir, est-ce qu'il y a vraiment des universitaux ou des universaux, pardon, de l'esprit humain, ou bien est-ce qu'il n'y a pas des relents sexistes qui perdurent et qui...
Je crois que vous avez, je pense que vous avez fait vos réponses.
Oui. Deux observations. Vous avez dit, d'une part, une chose qui me paraît un peu trop pessimiste, et puis dans la conclusion... Plutôt trop pessimiste, c'est ça, et dans la conclusion, trop optimiste. Je pense à l'assimilation. Parce que est-ce que quand même l'assimilation, quand elle est positive, quand elle est volontaire, comme l'exemple de l'Amérique où par un appel d'offres, si je puis dire, on a appelé à l'immigration du monde entier, persiste au sein des États-Unis, non pas seulement un nivellement, mais un apport de culture qui s'enrichit mutuellement. Donc c'est une forme d'assimilation positive que nous avons connue aussi en France, avec l'arrivée des communautés espagnoles après la guerre civile, de la communauté italienne, de la communauté polonaise, qui sont venues et ont enrichi la culture française. Ça, alors là, vous avez été, me semble-t-il, un peu pessimiste sur l'assimilation qui apporte quand même de la diversité. Et puis l'optimisme à la fin, si on voit ce qui se passe dans le domaine agricole dès aujourd'hui avec le génie génétique sur les produits agricoles, on voit qu'au contraire, les nouvelles espèces de tomates très résistantes font disparaître les dizaines et des dizaines de variétés de tomates. Il n'y a plus, aujourd'hui, on nous a annoncé dans un colloque il n'y a pas longtemps que 70% des pommes consommées dans le monde, c'est la pomme golden. Bon, d'autre part, en ce qui concerne les espèces nouvelles, on voit la même chose avec les blés non renouvelables qui se substituent aux autres. Donc, est-ce que là, vous n'êtes pas trop optimiste sur l'avenir ?
Oh, sur la seconde question, non, je suis pas du tout optimiste. Ça dépend des secteurs dont on parle. Je suis moins frappé là, si vous voulez, par les problèmes en termes de diversité qu'en termes d'industrie en fait et d'enjeux économiques de la diversité ou de la manipulation de la diversité. Et ce qui me frappe aussi là-dedans, c'est notre complicité. Quand je dis notre complicité, c'est la complicité des consommateurs, la complicité des pays occidentaux pour avoir un secteur agricole qui reste encore florissant. C'est les systèmes d'importation et la logistique globalisée. C'est plutôt de ce côté-là que je m'inquiéterais, si vous voulez. Donc, ça serait plus mon inquiétude porterait plus à ce moment-là sur le diagnostic sur les sociétés. Sur les sociétés individualistes de consommation et sociétés individualistes techniques et de consommation. Voilà. Avec leur élément démocratique, parce que derrière la consommation, il y a l'idée que chacun doit pouvoir consommer, hein, même si c'est des tomates transgéniques. Donc là, ce n'était pas vraiment la question que je voulais aborder aujourd'hui, mais je serais assez pessimiste aussi là-dessus. Pour ce qui est de l'absorption et de l'assimilation, je dirais ça dépend des concepts qui président, des concepts communautaires en quelque sorte qui président à l'absorption. Si ça doit être vraiment l'intégration à un modèle, je dirais, de citoyen républicain français intégré, je veux dire, c'est une forme que je trouve je trouve une forme qui profite beaucoup jusqu'ici, en tout cas. Des apports extérieurs. Hein. On a attendu en quelque sorte que nos Polonais, nos Italiens se fondent dans le paysage avec un petit passage par le football, par exemple, pour devenir des représentants politiques à peu près décents. C'est pas ce que j'appelle une grande place donnée à l'assimilation. Il y a d'autres cas où l'assimilation peut être, sur le cas des États-Unis, c'est une politique, disons, d'intégration très lâche. Hein. Mais à ce moment-là, le problème qui se pose, si vous voulez, dans le cadre des politiques d'intégration et d'assimilation très lâche, c'est qu'est-ce qui reste comme noyau de valeur, si vous voulez, autour de ça. Et est-ce que véritablement, il y a une diversité culturelle qui en ressort? À certains égards, oui. À d'autres égards, c'est moins certain.
Bonsoir, Monsieur Michaud.
Oui.
Vous semblez railler le regard grisé de l'honnête homme quand vous dites qu'il a devant lui, son expérience de la diversité est folklorique. Je me demandais si c'était pas ce regard sans passion, justement, qui garantissait pour les sujets du folklore d'être protégés. En fait, ma question, c'est est-ce que la diversité peut-elle être acceptée autrement que sans passion?
Oui, vous posez très bien la question. J'ai essayé d'être mesuré là en disant que le point positif de la folklorisation, c'est que ça permet d'accepter et de profiter même de la diversité. Le problème, c'est que ça la décharge aussi de son altérité, hein, de ce qu'elle peut véritablement avoir d'autre. Je dirais, tout dépend, à la limite, la décision se fera sur l'enjeu, ce sera la valeur que vous pouvez ou non accorder aux crises. Parce qu'il est évident que une diversité qui serait une véritablement une altérité et menaçante, ça ne peut donner qu'une sorte de coopération après le conflit, en quelque sorte. C'était le sens de la citation de Mazrui que j'ai fait. C'est-à-dire, c'est pour ça aussi que j'ai fait la référence à Hegel. C'est si la rencontre de deux choses extrêmement diverses ne se fait pas pacifiquement, elle ne peut se faire que par l'invention d'une synthèse supérieure, si jamais elle est possible, mais après le conflit. Donc tout dépend, je dirais, de la valeur que vous allez attribuer ou non au conflit et de la place que vous allez lui reconnaître.
C'est deux questions très courtes pour vous.
Pas sur les hormones. Hein.
Pardon ?
Pas sur l'hormone, hein, pas non, sur les
non,
traitements.
Non, pas sur les hormones. Je voulais savoir, vous avez dit dans votre discours le mot philosophe et vous avez dit penseur. Est-ce qu'il y a en France une nuance entre ces deux mots-là? Et comment, je dis spécifiquement en France, comment on est considéré comme un philosophe ou un penseur? Parce que dans les autres pays, par exemple les États-Unis, c'est très très restreint que l'on dit quelqu'un est philosophe ou penseur. La deuxième question que je vous demande, c'est qu'il y a une diversité génétique qui fait un gros problème. C'est-à-dire, je donne l'exemple de la chromosome X, qui en certains hommes, il y a un de trop. Et ça fait de gros problèmes de violence. Bon, qu'est-ce qui arrive pour comment la société peut contrôler cette situation? C'est-à-dire, les personnes qui ont cette chromosome, qui n'y passent à l'acte, est-ce qu'il est coupable? Parce que génétiquement, il y a quelque chose qu'il est malade. Donc, qu'est-ce que fait la société dans ce problème-là?
Bon, cela...
Excusez-moi, oui, oui. La dernière chose que je voulais dire, c'est que
oui.
Ça existe des gens homo supérieurs. C'est-à-dire, ce n'est pas nécessaire pour faire des choses, comme vous dites, manipulation génétique et tout ça. C'est déjà arrivé après la Deuxième Guerre mondiale, en New Mexico, à Los Alamos, où il y avait pour les bombes atomiques, le projet Manhattan, tous les gens qui ont été assemblés là-bas. C'est normal dans les déserts qui est très très chaud et c'est très beau et tout ça. Tous les hommes, toutes les femmes viennent ensemble. Et bon, il y avait des mariages là-bas qui ont produit des enfants avec un IQ beaucoup plus supérieur à la norme. Bon, ça c'est une chose qui est connue, c'est documenté, mais ce n'est pas, on ne parle pas beaucoup de ça parce qu'il faut protéger ces enfants, parce que tout le monde n'est pas des gens qui sont différents et peut-être supérieurs. Donc, est-ce que, par hasard, ils n'ont pas commencé déjà avec, on dit, homo supérieur,
Nous sommes homo sapiens, mais il y a déjà les autres qui sont déjà en dit supérieurs.
Bon, alors je vous réponds brièvement sur les trois points. Le premier est intéressant parce qu'effectivement, c'est une différence culturelle importante. J'ai employé penseur pour ne pas justement me cantonner dans une catégorie trop définie, assez académique, définie de manière assez académique, qui est philosophe, hein, qui est chez nous, et les gens qui occupent des professions d'enseigner la philosophie et qui sont en général des gens dans l'académie et dans l'université. Et j'ai employé penseur parce que je ne voulais pas non plus employer le terme d'intellectuel qui aussi, dans la tradition française, a des connotations assez précises et un certain type de rapport à l'actualité, au journalisme, à l'engagement politique. Donc, ce que j'ai appelé penseur, philosophe, c'est disons, tous ceux qui essayent de réfléchir en prenant un petit peu à la fois des risques et un petit peu de distance, tout en tenant compte autant que possible de ce que l'on connaît, hein, des connaissances que l'on peut avoir, d'où la différence que je faisais par rapport aux les scientifiques qui essayent autant que possible, tant qu'ils en restent à leur neutralité scientifique, à ne pas faire ce pas de plus ou de trop vers la généralisation de la réflexion, même s'ils en sont aussi capables que n'importe quel être humain. Hein. Donc j'essayais de désigner par là penseurs, philosophes, ceux qui essayent de faire ce pas en arrière de réflexion et de généralisation par rapport à des pratiques différentes. Si vous voulez, ce dont j'ai traité ce soir pourrait être traité très bien par un anthropologue et pourrait être traité très bien par un juriste. Ce que j'ajoute, moi, en tant que philosophe, et avec le type d'incompétence et d'audace qui caractérise les philosophes, c'est de faire ces sortes de rapprochements, si vous voulez, qui sont peut-être un petit peu audacieux et parfois discutables, mais qui peuvent aussi donner à réfléchir. Voilà pour la première question. Pour ce qui est du chromosome, du chromosome anthro et du chromosome criminel, il y a une manière, les sociétés humaines, à supposer que ce soit le cas, que ce que vous dites soit justifié, traitent très bien tout ça. Quand les gens commettent des crimes, elles les arrêtent, elles les essayent de les condamner, elles essayent de les garder en prison ou de les exécuter, hein, dans certains cas. Donc, c'est, d'une certaine manière, ça ne pose pas un cas particulier. Je veux dire, il y avait dans mon texte une petite allusion à ça, en disant il y a certaines différences. Je l'ai attribué au désir. Hein. Il y a certaines différences dues au désir individuel conduisant à de la délinquance qui ne seront pas tolérées, tout simplement. Et il y a des modes de traitement qui sont prévus. Bon, simplement, c'est des modes de traitement qui sont a posteriori. Hein. Mais à la limite, peu importe que la personne, je dirais du point de vue du traitement social, peu importe que la personne soit ou non responsable de son acte. Du point de vue de la sécurité sociale, ce qu'il faut, c'est que simplement, il soit mis hors d'état de nuire, donc confiné, tenu à l'écart de la société. Maintenant, ce qui peut être plus grave à l'avenir, c'est imaginons qu'on arrive à une détermination génétique. Alors bien sûr, actuellement, il y a tous les gens qui croient au tout génétique, dont la détermination génétique à la criminalité, la détermination génétique aux mathématiques, la détermination génétique à tout et n'importe quoi. Là, c'est l'hypothèse que je ferais d'une société qui, à ce moment-là, se mettrait à faire le tri a priori, en quelque sorte. Parce qu'on pourrait très bien imaginer que, là, j'évoque une perspective cauchemardesque, on pourrait très bien imaginer que tous les gens dont on déterminerait qu'ils ont ce chromosome en trop, eh bien, ils doivent pas venir à naître, et puis c'est tout. Et donc, ça serait réglé. Ça serait une manière de commencer à produire des différences à l'intérieur de la société en fonction des potentiels de chacun. Parce que, et là encore, je ne vois pas la différence entre les potentiels positifs et les potentiels négatifs, parce qu'on pourrait traiter les potentiels positifs, en disant tout ça, ceux-là seront des champions, ceux-là seront des mathématiciens, ceux-là seront des criminels. Bon, ben, on garde les champions, on garde les mathématiciens, et puis on tue les criminels. Hein, on peut imaginer que des gens qui ont des systèmes de valeurs différents diraient on garde les criminels et on tue les champions, etc. Ça pourrait arriver, hein, je veux dire. Dans l'imagination humaine, il faut voir cette labilité-là. Donc, si vous voulez, je ne pense pas que, pour être bref, je ne pense pas que cette notion de détermination génétique du criminel apporte quelque chose de fondamentalement nouveau par rapport à une problématique générale de sélection sociale à l'intérieur d'une société qui aurait les moyens de faire la sélection. Et ça me mène à votre troisième remarque. C'est vrai que d'ores et déjà, il y a une sélection sociale. Hein, je veux dire, quand on recrute des polytechniciens, on essaye de recruter des gens, pas sur des bases génétiques encore, mais on essaye de recruter des gens qui réussissent un certain nombre de performances particulièrement bien et qui ont un niveau de performance sur des exercices calibrés assez standardisés. Bon, ce que je craindrais, bon, pour le moment, on laisse faire. Entre guillemets, on laisse faire, parce que je crois qu'on laisse moins faire qu'on le dit, on laisse faire en quelque sorte les hasards de la vie dans tout ça, hein, y compris en perdant des talents et en laissant des choses se perdre. Mais c'était peut-être un petit peu ce que je voulais dire dans ma dernière remarque, c'est que je pense que si on aboutit à quelque chose de trop rationnel et à un contrôle, sous réserve que toute cette détermination génétique ait véritablement un sens, on le saura dans un certain temps, hein, mais on ne le sait pas encore complètement. Si jamais on arrivait à avoir un contrôle beaucoup trop fort, à ce moment-là, on reconstituerait une société des rangs. Hein, y a déjà des gens qui mettent leurs enfants dans des écoles pour surdoués et qui voudraient qu'ils se marient avec des surdoués. Y a toujours des fantasmes. Bon, mais une société des ordres, et des ordres et des rangs, une société des castes, c'est pas quelque chose de nouveau dans l'histoire humaine. Hein, allez changer de caste quand vous êtes dans un village indien reculé et vous m'en direz des nouvelles.
Yves Michaud, merci beaucoup.